Cours E de traitement numérique du signal. Ce cours est composé en 8 parties. Des exemples de filtres analogiques, le principe d'invariance, pourquoi un filtre analogique est défini par une réponse impulsionnelle, les propriétés du produit de convolution, la transformée de Laplace, qui est une transformée adaptée à l'étude des filtres et de leur relation avec la réponse impulsionnelle, les filtres et les fonctions de transfert que permet de définir la transformée de Laplace, un critère de stabilité qui repose sur la fonction de transfert, la notion de pôle et de zéro, les filtres à phase linéaire avec un critère sur la réponse impulsionnelle et enfin un schéma général des relations entre réponse impulsionnelle, fonction de transfert et filtre. Transparent 2. Voici un premier exemple de filtre analogique, c'est la relation entre la force et la vitesse que prend un objet soumis à une certaine force F. F est l'entrée, V est la vitesse. On peut l'écrire sous la forme d'une équation différentielle qui est issue de la relation de la dynamique. M fois la dérivée de V est égale à la force, ou sous une forme intégrale, V égale l'intégrale de 0 à t de 1 sur M, F de taux des taux. Ceci est un filtre analogique s'il s'agit d'un intégrateur. Si on considère un autre problème qui est l'inertie et le frottement fluide, c'est-à-dire on considère un objet qui a une certaine vitesse V et qui est soumis à une certaine force opposée à la direction de la vitesse, qui est une force de frottement fluide, l'ensemble étant soumis à une force F, l'entrée est la force F et la sortie est la vitesse de l'objet. Alors, on peut exprimer cette relation sous la forme d'une équation différentielle. Donc m fois la dérivée de la vitesse plus lambda fois la vitesse est égal à la force, ou sous la forme d'une relation intégrale, la vitesse est égale à l'intégrale de 0 à t d'exponentielle de moins lambda sur m de t moins taux sur m, facteur de f de taux des taux. Dans cette équation intégrale, f est l'entrée, et exponentielle de moins lambda sur m, le tout divisé par m, est la réponse impulsionnelle. Alors la forme de cette réponse impulsionnelle est donnée par la courbe en bas à droite. Tandis que la forme de la réponse impulsionnelle du filtre analogique du haut est donnée par la courbe en haut à droite. Il s'agit d'un échelon. Donc c'est ça qu'on appelle un intégrateur. Transparent 3, donc d'autres exemples de filtres. En entrée, on a un signal aléatoire, nul pour les instants négatifs, et donc aléatoire pour les instants strictement positifs. Si la réponse impulsionnelle est un Dirac en instant 1, ça veut dire que le filtre est simplement un retard pur, et que la sortie est égale à l'entrée, à ceci près qu'elle est retardée d'une seconde. Si la réponse impulsionnelle est une fonction porte qui vaut 1 dans les instants 0, 1, alors le filtre est un moyenneur, c'est-à-dire qu'à chaque instant, il donne la moyenne de l'entrée sur les 1 seconde qui précèdent. La sortie est représentée au milieu à droite, et on observe qu'elle est beaucoup plus lisse que l'entrée. Si maintenant on dilate cette réponse impulsionnelle qui vaut 1,5 entre l'instant 0 et 2, c'est ce qu'on peut observer dans la courbe du milieu en bas, alors la sortie est encore plus lisse, la pente au démarrage est encore plus faible, et globalement, les deux filtres, ceux du milieu et ceux de la dernière ligne, sont des passe-pas, la différence étant que la fréquence de coupure est plus faible dans le deuxième filtre que dans le premier. En effet, la réponse impulsionnelle a été dilatée, et par conséquent, la réponse fréquentielle, qui est la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle, se trouve être concentrée autour de la fréquence nulle. Transparent 4. En regardant maintenant le fonctionnement du produit de convolution. Donc on reprend l'exemple du solide avec frottement fluide soumis à une force F, et dont la réponse impulsionnelle est une courbe nulle pour les instants strictement négatifs et exponentiellement décroissante pour les instants positifs. C'est la courbe de premier graphe du haut. On soumet à cette courbe une force qui croît selon une rampe entre 0 et 1 seconde, qui s'annule en une seconde et qui recroît de une à deux secondes. La sortie est donc l'intégrale du produit. Donc la sortie, par exemple, si on prend la sortie à l'instant 0, elle est égale au produit de la force à l'instant 0 que multiplie la réponse impulsionnelle à l'instant 0. Si maintenant on prend la sortie à l'instant 0,2, elle est le produit de la force à l'instant 0,2 que multiplie la réponse impulsionnelle à l'instant 0,2, auquel on ajoute, sous la forme d'une intégrale, donc la force à un instant juste avant 0,2 et la réponse impulsionnelle à un instant juste après 0. Et on ajoute en fait tous les produits de l'ensemble de la force entre l'instant 0 et 0,2 et l'ensemble de la réponse impulsionnelle entre les instants 0 et 0,1. Voilà. Entre 0 et 0,2 en fait. Et pour chaque valeur de force, il correspond une valeur de la réponse impulsionnelle et qui se décale par rapport à 0 de la quantité de temps dont la force se décale par rapport à la sortie que l'on veut calculer à cet instant donné. Donc il s'agit d'un produit terme à terme en croix. Autrement dit, le t moins tôt qui est en haut dans l'intégrale, dans l'expression intégrale, plus tôt est égal au t sur lequel est calculée la vitesse en sortie. Alors, le fait qu'on voit que la vitesse, elle augmente doucement, mais elle augmente, ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, la force, elle augmente et elle est cumulée, tout le passé contribue à augmenter la vitesse. Lorsque la force chute brutalement, la vitesse, elle, ne chute pas brutalement, elle diminue. Elle diminue parce que plus on s'éloigne de l'instant 1, plus la contribution du passé est affaiblie parce que la réponse impulsionnelle décroît, et plus la contribution actuelle, elle, reste faible et ne compense pas l'augmentation, jusqu'à ce qu'on se trouve à un moment donné où la contribution à un moment donné de la force arrive à compenser le fait que le passé ait moins d'impact sur la situation actuelle. On a toujours donc en sortie du filtre une contribution à la fois de ce qui se passe à l'instant présent et du passé pondéré, et la réponse impulsionnelle apparaît comme une pondération. Transparence 5. Une des particularités des systèmes physiques, c'est la présence de la notion d'invariance. Alors, l'invariance qui est la plus visible, la plus nette, c'est l'invariance spatiale. Si on prend un bateau qui est soumis à la force du vent et à une contre-force de l'eau, la façon dont ce bateau se déplace, la vitesse à laquelle il se déplace, la direction dans laquelle il se déplace, ne dépend pas de la position où il se trouve si le vent est identique partout. On a donc ici une invariance spatiale qui fait que la façon dont le bateau se comporte est indépendante de la position où il se trouve. Mais cette notion d'invariance dans l'espace, il existe aussi la notion d'invariance dans le temps, c'est-à-dire que si on fait l'expérience avec un bateau et un vent donné et un lieu donné à un instant donné, et que si on change l'instant et qu'on le fait par exemple le lendemain, mais que par exemple on se trouverait dans une situation où le vent serait le même le lendemain, eh bien le résultat, l'impact serait le même, c'est-à-dire que le bateau se déplacerait à la même vitesse le lendemain. Donc l'invariance dans le temps signifie que si l'entrée, par exemple la force du vent, est déplacé et retardé d'une journée, alors l'impact sur le bateau est aussi retardé d'une journée. Donc c'est cela qu'on appelle l'invariance dans le temps. Alors en physique, cette notion-là existe aussi. Donc, la relation entre une entrée et une sortie, d'une façon générale, pour n'importe quel matériau, entre la force qu'elle exerce depuis l'infinité des temps jusqu'à l'instant présent, a un impact sur la déformation ou sur la position d'un objet à travers une relation intégrale, et où h de t, tau, décrit l'impact de cette force suivant l'instant sur le résultat. À partir du moment où on décide qu'on a un principe d'invariance dans le temps, ça signifie que on prend deux signaux, l'un qui est en retard par rapport à l'autre, donc f2 de t qui est en retard par rapport à f1 de t, à travers un temps t, et dans ce cas-là, donc le principe d'invariance signifie que la deuxième sortie est égale à la première sortie retardée d'un temps grand t. À partir du moment où on a ce principe d'invariance, un petit calcul sur la relation intégrale qu'on a écrit plus haut prouve que nécessairement la fonction qui a priori dépend de deux variables est en réalité peut s'écrire sous la forme d'une fonction qui ne dépend que d'une seule variable. Et cette fonction qui ne dépend que d'une seule variable s'appelle la réponse impulsionnelle. L'écriture intégrale consiste simplement à écrire que l'intégrale de h de t moins grand t, virgule taux, fois f1 de taux est égal à h de t, virgule taux prime plus grand t, f1 de taux prime. Donc à partir du moment où on écrit que h de t moins grand t, virgule taux est égal à h de t, virgule taux plus grand t, ça veut dire qu'il existe une fonction qui ne dépend que de la différence entre t moins taux. Et d'une façon générale, les relations, les systèmes linéaires entrée-sortie dans le monde physique sont des relations invariants par rapport au temps, qui peuvent s'écrire sous la forme d'une réponse impulsionnelle et donc finalement d'un produit de convolution entre une fonction HU et une entrée f de t. Donc cette réponse impulsionnelle en physique s'appelle la fonction de Green. Transparent 7. Donc quelles sont les propriétés du produit de convolution? On a donc vu la définition dans le transparent 6 du produit de convolution. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'une fonction de t moins taux et d'une deuxième fonction dépendant de taux. Et le résultat dépend de t. Et on vérifie que t moins taux plus taux est égal à t. Alors, pour les propriétés, une première idée, c'est la conservation de la moyenne. La moyenne de l'entrée, la moyenne de la sortie est égale à la moyenne de l'entrée que multiplie l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de t dt. Cette relation peut s'écrire aussi sous une autre forme. Si on appelle grand H de f la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle, cette transformée de Fourier s'appelle la réponse fréquentielle, eh bien l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de t est en fait la réponse fréquentielle en la fréquence nulle. Autrement dit, la propriété de la conservation de la moyenne peut aussi s'écrire sous la forme de la moyenne de la sortie est égale à la réponse fréquentielle en la fréquence nulle que multiplie la moyenne de l'entrée. Ensuite, on a la notion de la conservation de la périodicité, à savoir que si l'entrée est périodique, alors la sortie est aussi périodique. L'invariance temporelle qui nous a permis de faire apparaître la réponse impulsionnelle. Donc ici, on démontre l'inverse, à savoir que si on retarde l'entrée d'une quantité T0, le nouveau signal placé en entrée du filtre a pour sortie l'ancienne sortie décalée de T0. Ensuite, on a la linéarité. On peut d'abord montrer la superposition des signaux, c'est-à-dire que si en entrée on met la somme de deux signaux, alors en sortie on a la somme des deux sorties qu'on aurait eues en plaçant en entrée le premier signal, puis en entrée le deuxième signal. La linéarité, c'est aussi la relation vis-à-vis de l'amplification d'un signal. Donc si on amplifie l'entrée, alors la sortie est amplifiée du même facteur. Si on place deux filtres en cascade l'un de l'autre, alors c'est équivalent à considérer un seul filtre dont la réponse impulsionnelle serait le produit de convolution de la réponse impulsionnelle du premier filtre par la réponse impulsionnelle du deuxième filtre. Ce qu'on appelle donc la réponse harmonique consiste à placer en entrée une exponentielle complexe, exponentielle j de pi f0 t. Alors, dans ce cas-là, la sortie est égale à cette exponentielle j de pi f0 t que multiplie un coefficient complexe que l'on appelle qui est égal à la réponse fréquentielle du filtre en la fréquence f0. Si la transformée de Fourier de la sortie est égale à la réponse fréquentielle que multiplie la transformée de Fourier de l'entrée. Enfin, sur la fonction de transfert, et c'est pour ça qu'on a défini la transformée de Laplace, c'est que la transformée de Laplace de la sortie est égale à la fonction de transfert que multiplie la transformée de Laplace de l'entrée. Alors maintenant, nous allons définir qu'est-ce que c'est que cette transformée de Laplace. Alors tout d'abord, cette transformée de Laplace n'est définie que pour les signaux causaux, c'est-à-dire les signaux qui sont nuls pour les instants strictement négatifs. Donc ici, on a un exemple de signal causal qui est égal à exponentielle de moins at multiplié par grand 1 de 0 à l'infini de t. Donc, ce grand 1 de 0 à l'infini de t vaut 1 pour les instants positifs et 0 pour les instants strictement négatifs. À gauche du transparent, on a la transformée de Laplace, et à droite du transparent, on a la transformée de Fourier. Donc la transformée de Laplace est définie par une intégrale de 0 à plus l'infini, ce qui est logique que ça ne soit pas de moins l'infini à plus l'infini, puisque cette transformée de Laplace ne s'adresse qu'à des signaux causaux, donc nuls pour les instants strictement négatifs. Ensuite, c'est encore une combinaison linéaire, elle est linéaire, puisque c'est s de t fois exponentielle de moins pt à la place d'exponentielle de moins j de pi ft, comme c'est le cas pour la transformée de Fourier. C'est la seule différence en fait entre la transformée de Laplace et la transformée de Fourier, ce sont les intervalles de temps sur lesquels on intègre et le fait d'avoir remplacé j de pi f par le complexe p. C'est de cela que vient la relation exposée plus bas. On peut retrouver la transformée de Fourier à partir de la transformée de Laplace en remplaçant le complexe P par J de pi f. Alors la transformée de Laplace est donc une quantité qui dépend d'un complexe P et non plus d'une valeur. C'est ce qui la distingue. Donc si on voulait réellement représenter une transformée de Laplace, ce qu'on ne fait en général pas, il faudrait représenter le module et la phase, et le module dépend de la valeur d'un complexe, donc le module est une surface dans un espace à trois dimensions, et la phase est aussi une surface dans un espace à trois dimensions. L'ensemble des complexes sur laquelle la transformée de Laplace est définie sont les complexes à partie réelle strictement positifs a priori, et éventuellement on peut étendre la fonction pourvu qu'on ne rencontre pas d'instabilité numérique, enfin de complexe pour lequel l'écriture de la transformée de Laplace ne serait pas définie. La relation qui est écrite entre la transformée de Laplace et la transformée de Fourier permet d'affirmer que pour des signaux causaux et pour des signaux pour lesquels il n'y a pas de problème mathématique, la transformée de Fourier consiste à prélever les valeurs prises par la transformée de Laplace le long de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire pour les valeurs où P est sur l'axe imaginaire. Donc c'est pour ça que la courbe du module de la transformée de Fourier, qui est une courbe en 2D, c'est la partie verte à droite, coïncide avec le vert de la transformée de Laplace. Et de même pour la phase de la réponse fréquentielle se déduit de la transformée de Fourier, se déduit de la phase de la transformée de Laplace, à condition de la prendre le long de l'axe des ordonnées. Transparent 9. On étudie maintenant les propriétés de la transformée de Laplace. Donc ces propriétés, dans la mesure où la transformée de Fourier se lie à partir des valeurs prises par la transformée de Laplace, il est assez logique de penser que les propriétés de la transformée de Fourier se déduisent ou ressemblent aux propriétés de la transformée de Laplace. Alors d'abord, dans la mesure où x de t... Donc d'abord, ce qu'on peut dire, si on multiplie le signal par exponentielle j de pi f0t, Dans ce cas-là, la transformée de Laplace est décalée du complexe moins j de pi f0. C'est le pendant de ce décalage fréquentiel qu'on avait déjà, de la propriété de décalage fréquentiel que l'on avait déjà pour les transformées de Fourier. Donc à partir de cette propriété, on peut en déduire assez facilement la transformée de Laplace de cosinus de pi f0t que multiplie un signal s de t. De la même façon, si le signal s de t est décalé de t0, alors la transformée de Laplace est multipliée par exponentielle de moins pt0. Attention, dans la mesure où on ne s'intéresse qu'à des signaux causaux, il n'est pas question d'avancer le signal au point que ce signal ne serait plus causal. La transformée de Laplace est linéaire, c'est-à-dire que la transformée de Laplace d'un signal multiplié par A est égale à A fois la transformée de Laplace. La transformée de Laplace de la somme de deux signaux est égale à la somme des transformées de Laplace. La relation vis-à-vis de la dilatation est la même que pour la transformée de Fourier. Si on dilate le signal, alors la transformée de Laplace est concentrée et amplifiée du même facteur A. La transformée de Laplace de l'intégrale d'un signal est égale à 1 sur p s de p, et la transformée de Laplace de la dérivée d'un signal est égale à p fois s de p. Alors il faut faire attention quand on applique ceci aux singularités qui pourraient apparaître en t égale 0 du fait que la dérivée du signal comme le signal lui-même doivent être tous les deux causaux. Alors ce sont ces deux relations, hein, le fait que l'intégrale se traduit par la multiplication du coefficient 1 sur p et le fait que la dérivée se traduise par la multiplication par p, qui laissent entendre que la transformée de Laplace en fait remplace l'opérateur d'intégration par le fait de multiplier par 1 sur p, et l'opérateur de dérivation par le fait de multiplier par p. Et c'est la raison pour laquelle la transformée de Laplace est un outil particulièrement adapté à l'étude des équations différentielles à coefficients constants et d'une façon générale des filtres linéaires temps invariants. Le produit de convolution entre deux signaux, donc la transformée de Laplace d'un produit de convolution entre deux signaux, c'est le produit des transformées de Laplace. Et puis, plus généralement, donc la transformée de Laplace d'un Dirac est égale à 1. La transformée de Laplace du signal 1 de 0 jusqu'à l'infini est égale à 1 sur p. La transformée de Laplace d'un cosinus de pi f0t entre 1 et l'infini est relativement différent de la transformée de Fourier d'un cosinus de 2πf0t. C'est donc là qu'on voit la limite entre les relations entre transformée de Laplace et transformée de Fourier. Et d'une façon générale, à chaque fois qu'on a un signal qui est périodique ou qui ne serait pas d'intégrale finie, qui aurait un comportement singulier en l'infini, dans ce cas-là, la transformée de Laplace et la transformée de Fourier ne coïncident pas. Transparent 10. Donc ce qu'on appelle un filtre est une relation linéaire temps invariante entre une entrée U et une sortie Y de T. La réponse impulsionnelle, c'est la réponse du filtre lorsqu'on met en entrée un Dirac. La réponse indicielle est la réponse d'un filtre lorsqu'on met en entrée un échelon, c'est-à-dire la fonction qui vaut 1 pour les instants positifs et 0 pour les instants strictement négatifs. La réponse harmonique ou réponse fréquentielle, c'est la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle. Et en particulier, lorsque on met en entrée d'un filtre une exponentielle complexe à la fréquence f0, la sortie est aussi une exponentielle complexe, mais multipliée par un coefficient complexe qui est égal à la réponse fréquentielle. Il faut faire attention que ceci n'est valable, cette relation n'est valable que si l'exponentielle complexe est valable de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc transparent 11, on considère maintenant une équation différentielle à coefficient constant, a0 y plus 1 fois la dérivée de y plus a2 fois la dérivée 2 de la dérivée seconde de y plus un certain nombre de dérivées successives. Donc y est noté la sortie, donc l'ensemble de cette quantité est égal à la somme de l'entrée fois b0, de la dérivée de l'entrée fois b1, de la dérivée seconde de l'entrée fois b2. Donc l'ensemble de cette équation différentielle, si on applique la transformée de Laplace à l'ensemble de cette équation différentielle, on transforme chacun des opérateurs de dérivation en le fait de multiplier par le complexe P. Et du coup, la relation entrée-sortie, qui s'exprimait sous la forme d'une équation différentielle, s'exprime maintenant sous la forme d'un produit de la transformée de Laplace par un premier polynôme en P, et la produit de la transformée de Laplace de l'entrée par un deuxième polynôme toujours en P. Et ce qu'on appelle la fonction de transfert, c'est le quotient entre la transformée de Laplace de la sortie par la transformée de Laplace de l'entrée, et c'est un quotient de polynômes. Le polynôme du haut est appelé numérateur, le polynôme du bas est appelé le dénominateur. Et la relation entre transformée de Laplace et transformée de Fourier fait qu'on obtient la réponse fréquentielle d'un filtre à partir de la fonction de transfert en remplaçant chaque complexe P par le complexe J de Pi F. Alors, ce qu'on appelle les pôles et les zéros, ce sont les zéros, ce sont les racines du polynôme numérateur, et les pôles, ce sont les racines du polynôme du dénominateur. Un résultat mathématique montre que n'importe quel polynôme a toujours un nombre de racines complexes égal au degré du polynôme, et que ce polynôme peut s'écrire sous la forme d'un produit p moins z0, facteur de p moins z1, facteur de p moins z2. Ce qui nous permet, dès lors qu'on connaît les zéros et les pôles, d'écrire le module de la réponse fréquentielle sous la forme d'un produit de une fréquence moins une certaine fréquence donnée, f moins fz, plus un coefficient qui est égal à la partie réelle du zéro. Donc la relation sur le module fréquentiel est une relation générale que l'on peut écrire pour n'importe quel filtre à partir du moment où on connaît les zéros et les pôles. C'est dire que la position de ces pôles et de ces zéros va permettre de décrire de façon assez précise le comportement du filtre. Il en est du même pour la réponse fréquentielle, dans la mesure où un produit de complexe, l'argument d'un produit de complexe est égal à la somme des arguments de chacun des complexes. Il est aussi facile d'écrire la phase de la réponse fréquentielle dès lors que l'on connaît les pôles et les zéros. Transparent 13. Un autre résultat mathématique permet de transformer la fonction de transfert à partir du moment où on connaît les zéros et les pôles. Il s'agit de la décomposition en éléments simples. À partir du moment où on a décomposé en éléments simples la fonction de transfert, on ne retrouve plus les zéros, mais par contre, on fait apparaître les pôles. Et ce qui est intéressant dans l'écriture avec cette somme de fractions, c'est qu'elle permet d'écrire la réponse impulsionnelle. En effet, on connaît la transformée de Laplace inverse de 1 sur p moins p0. Alors l'écriture qui est présentée ici est un peu simplifiée parce que dans la réalité, lorsqu'on a des pôles multiples, on peut se retrouver avec des fractions avec des ordres plus élevés et donc une écriture un peu plus compliquée de la réponse impulsionnelle. Transparent 14. Le critère de stabilité des filtres est que l'ensemble des pôles sont à partie réelle strictement négatifs. S'il existe un pôle dont la partie réelle est nulle ou positif, alors le filtre est instable. Les zéros permettent de déterminer le comportement sur la phase. Si l'ensemble des zéros est à partie réelle strictement négatif, alors le filtre est dit un minimum de phase. En revanche, s'il existe un zéro dont la partie réelle est positive, dans ce cas-là, le filtre n'est plus un minimum de phase. Cette idée de la relation minimum de phase, c'est que il est possible, sans changer réellement la fonction de transfert, sans changer réellement le comportement de la réponse fréquentielle. On change la fonction de transfert, mais on ne change pas le comportement de la réponse fréquentielle en déplaçant le zéro de la zone de stabilité à la zone de la zone à gauche de la zone vers la zone à droite ou de la zone à droite vers la zone de la gauche. Transparent 15. On étudie maintenant une équation différentielle du premier ordre, assez simple, dy sur dt plus ay égale à x. Si a est positif, ce filtre avec en entrée x et en sortie y est stable. Si a est négatif, ce filtre est instable. La fonction de transfert que l'on peut écrire en calculant la transformée de Laplace de cette équation différentielle et donc en transformant l'opérateur de dérivation en le fait de multiplier par p. Donc cette fonction de transfert qui est égale au quotient de la transformée de Laplace de la sortie y de t par la transformée de Laplace de l'entrée x de t est égale à 1 sur p plus 1. Ce qu'on avait écrit dans le transparent précédent, c'est que justement, dès lors qu'on connaît cette fonction de transfert et donc les pôles et les zéros, eh bien, il est facile d'écrire le module de la réponse fréquentielle et l'argument de la réponse fréquentielle. En l'occurrence, il y a un pôle qui est moins A et pas de zéro. Au milieu, à gauche, c'est l'ensemble des pôles pour différentes valeurs de A. Donc si A est négatif, dans ce cas-là, les pôles sont dans la partie droite, sont à droite de l'axe imaginaire et le filtre est instable. En revanche, si A est positif, dans ce cas-là, les pôles sont à gauche de l'axe imaginaire et dans ce cas-là, ils sont dans la partie stable et le filtre est stable. C'est ce que l'on peut voir que la réponse fréquentielle, elle, ne dépend pas du signe A. Donc la partie en haut, les trois graphes du haut sont faits avec des valeurs de A négatives et donc représentent des filtres instables. Plus A s'approche de 0, plus la réponse fréquentielle en la fréquence nulle est très élevée. Et plus A est loin, plus la réponse fréquentielle est faible en la fréquence nulle. Ça, c'est le comportement de la réponse fréquentielle. Mais dans tous les cas, il est instable. Et l'instabilité ne se voit pas forcément dans la réponse fréquentielle. Elle se voit dans la transformée de Laplace, mais ne se voit pas forcément dans la réponse fréquentielle. Si A est positif, on a de la même façon plusieurs valeurs possibles pour la réponse fréquentielle. Plus A est faible, plus la réponse fréquentielle est élevée en la fréquence nulle, plus A est élevée, plus la réponse fréquentielle est faible en la fréquence nulle. Et par contre, il est stable. Donc le graphe à gauche est le module de la réponse fréquentielle, le graphe du milieu est la phase de la réponse fréquentielle, et le graphe de droite sont différentes réponses impulsionnelles suivant les différentes valeurs de A. Le fait que la réponse fréquentielle tende vers 0, c'est une des conséquences du fait que le filtre est stable. On considère maintenant un autre exemple d'équation différentielle, écrit en haut à gauche, hein, d sur dt de y, donc la dérivée de la sortie plus la sortie est égale à la dérivée de l'entrée plus b fois l'entrée. Après application de la transformée de Laplace, on peut calculer la fonction de transfert du filtre où l'entrée est x de t et la sortie y de t. Donc ce filtre, c'est p plus b sur p plus 1. Il y a un pôle en p égale à moins 1 et un zéro en p égale à moins b. Donc la réponse impulsionnelle de ce filtre peut se calculer après application de la décomposition en éléments simples, c'est-à-dire on a essayé d'écrire la fonction de transfert comme une constante plus une deuxième constante divisée par p plus 1. La première constante, en l'occurrence, c'est 1, et c'est elle qui, en transformée de Laplace inverse, nous a donné le Dirac. Et le deuxième coefficient divisé par p plus 1, c'est ce qui nous a donné le terme moins 1 moins b, facteur d'exponentielle de moins t, fois l'échelon de 0 jusqu'à l'infini. À partir du moment où on avait le pôle et le 0, c'est facile de calculer le module de la réponse fréquentielle et la phase de la réponse fréquentielle. Les graphes à gauche sont le module de la réponse fréquentielle pour différentes valeurs de b. Les graphes au milieu sont la phase de la réponse fréquentielle et les graphes de droite sont les réponses impulsionnelles de ce filtre. Lorsque les graphes du haut correspondent à b qui est négatif et comme le 0 c'est égal à moins b, ça veut dire que le 0 est à droite de l'axe imaginaire et que donc le filtre n'est pas un minimum de phase. En revanche, pour les graphes d'en dessous, qui correspondent à des valeurs de b positifs, les graphes sont un minimum de phase parce que le 0 se trouve à gauche de l'axe imaginaire. Alors, ce qu'on peut constater comme différence entre les graphes du haut et les graphes du bas, c'est que les réponses fréquentielles ont l'air d'être à peu près la même, mais les phases ne sont pas les mêmes. Dans les graphes du haut, la phase présente une discontinuité importante en la fréquence nulle, alors que dans les deux graphes pour b strictement positif, les deux graphes du bas, la fréquence est au contraire continue en la fréquence nulle. De même pour la réponse impulsionnelle, la discontinuité en l'instant 0 est plus faible dans les graphes d'en dessous que dans les graphes au-dessus. Transparent 17. Donc, qu'est-ce qu'un filtre à phase linéaire? C'est un filtre pour lequel la dérivée de la phase de la réponse fréquentielle est nulle. Alors, en pratique, une réponse fréquentielle a souvent des sauts parce que elle dépasse la valeur de pi sur 2 et donc c'est la dérivée en dehors des valeurs de sauts. Alors, une condition suffisante pour que la réponse fréquentielle soit à phase linéaire, c'est que la réponse impulsionnelle soit symétrique, c'est-à-dire que h de t soit égal à h de grand T moins petit t. Donc, c'est-à-dire qu'il existe un coefficient grand T et que la réponse impulsionnelle soit symétrique autour de ce t sur 2. Alors, un exemple qui illustre un filtre à phase linéaire. Donc, en haut, on a une certaine réponse impulsionnelle qui vaut 1 entre l'instant 0 et 1. Au milieu, en haut, c'est le module de la réponse fréquentielle. Et à droite, c'est la réponse fréquentielle, la phase de la réponse fréquentielle. Alors, le filtre qu'on étudie en haut ici est un simple moyenneur. Et la réponse fréquentielle décroît au fur et à mesure que la phase de la réponse fréquentielle décroît au fur et à mesure que la fréquence augmente. Il s'agit donc d'une phase linéaire et la dérivée est indiquée en pointillé. Elle vaut 0, sauf en des instants très particuliers. Si à la place de considérer une réponse impulsionnelle qui vaut 1 entre l'instant 0 et 1, on considère une réponse impulsionnelle sous la forme d'une rampe, on n'a plus la symétrie et on observe à droite, en pointillé, la dérivée de la phase de la réponse fréquentielle qui n'est plus nulle, même si ça ne se voit pas très facilement sur la façon dont la phase de la réponse fréquentielle varie avec la fréquence. De fait, on ne peut pas dire qu'elle soit linéaire. Si on rajoute une deuxième rampe, on n'a bien sûr toujours pas une symétrie de la réponse impulsionnelle et on a donc toujours quelque chose qui varie. Si on inverse la deuxième rampe, on a donc un signal triangulaire et on a de nouveau un filtre phase linéaire et ça se voit dans les pointillés du graphe de droite qui sont complètement plats. Alors, transparent 19, ce sont les équations dont on a présenté précédemment les graphes. Alors maintenant, dans cette huitième partie, on va présenter un schéma qui résume l'ensemble des transformations que l'on a vues précédemment. Alors au départ, on a une réponse impulsionnelle qui peut être déduite de la relation entrée-sortie, qui est en général sous la forme d'une équation aux dérivées à coefficient, d'une équation différentielle à coefficient constant, et qui pourrait aussi s'écrire sous la forme intégrale et qui ferait apparaître h de t. Alors comment on passe d'une relation entrée-sortie à la réponse impulsionnelle? Eh bien par exemple en mettant en entrée un Dirac, et dans ce cas-là, la sortie, c'est la réponse impulsionnelle. Maintenant, cette réponse impulsionnelle, si on calcule la transformée de Fourier, on trouve la réponse fréquentielle. Si on revient à l'équation entrée-sortie et qu'en entrée, on place une exponentielle complexe exponentielle de j de pi f 0t, depuis moins l'infini des temps jusqu'à plus l'infinité des temps, alors la sortie est aussi une exponentielle complexe, mais multipliée par un coefficient, et c'est ce coefficient-là qui dépend de la fréquence f0 que l'on a mis en entrée, et qui s'appelle la réponse fréquentielle, et qui coïncide donc avec la réponse fréquentielle que l'on a pu calculer en appliquant la transformée de Fourier à la réponse impulsionnelle. Si on applique à la réponse impulsionnelle la transformée de Laplace, on obtient la fonction de transfert. Cette fonction de transfert, on aurait pu l'obtenir à partir de l'équation entrée-sortie en remplaçant les dérivées t sur dt par le fait de multiplier p et en remplaçant les signaux x de t par la transformée de Laplace quand x de t. Donc le fait de transformer les dérivées en une multiplication par p et x de t par la transformée de Laplace de x de p, en fait ça s'appelle appliquer la transformée de Laplace à l'ensemble de l'équation différentielle. On peut passer, sous réserve d'un certain nombre de précautions mathématiques, on peut passer de la transformée, de la fonction de transfert d'un filtre h de p, c'est-à-dire transformée de Laplace de h de t, à la réponse fréquentielle du filtre, c'est-à-dire la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle, en remplaçant les coefficients p par j de pi f. Donc si dans la convention on a choisi de mettre un chapeau ou un accent circonflexe sur les réponses fréquentielles et donc à ne pas en mettre pour les transformées de Laplace, c'est pour distinguer les deux quantités qui ne sont égales qu'à la condition d'écrire p égale à j de pi f. Mais sinon, ce ne sont pas à proprement dit les mêmes fonctions.